Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, c'est Solidaire d'abord. Et aujourd'hui, on va avoir plein de sujets, évidemment, dans l'actualité, comme d'habitude, dans cette émission que l'on fait grâce à Fréquence 7, pas pareille et différente. Mais on a un invité spécial. Aujourd'hui, on a un expert. Hein, c'est un petit peu ça, Alain Vol. Tu es expert. Alors, tu viens au nom de la CLIGET et de Greenpeace aujourd'hui, hein?
Pas tout à fait.
Disons
que je m'intéresse au nucléaire et à Tricastin depuis 15 ans. Donc, effectivement, oui. J'ai pas mal bossé les dossiers parce que, en effet, je représente Greenpeace à la CLIGET. La CLIGET, c'est la commission locale d'information des grands équipements énergétiques de Tricastin. Donc, en fait, c'est une commission locale d'information que le gouvernement a décidé d'installer dès qu'il y a une centrale nucléaire dans un département. Et c'est un lieu où on a en face de nous les exploitants, c'est-à-dire EDF, Orano d'un côté, avec les représentants de l'autorité de sûreté nucléaire. Et en face, il y a quelques élus qui sont dans le PPI, les 20 km autour de la centrale. Il y a quelques représentants de syndicats et quelques représentants d'associations environnementales. Et moi, je représente Greenpeace, hein, cette CLIGET, aux côtés de Roland Desbordes de la CRIRAD, dont je suis le suppléant au bureau.
La première question qui me vient, vu ce que tu viens de dire, c'est donc c'est très très démocratique.
Alors non, c'est malheureusement pas très démocratique parce qu'en fait, les réunions durent à peu près 2 à 3 heures. Ce qui se passe, c'est que EDF vient avec un PowerPoint d'environ 20 minutes. Orano vient avec un PowerPoint d'environ 20 minutes. L'ASN peut avoir aussi des documents qui peuvent durer une dizaine de minutes. Et nous, en revanche, les membres d'associations environnementales et syndicats, nous avons droit à une question. Rarement deux, et Madame la Présidente, Madame Mouton, nous donne rarement deux fois la parole. Donc, d'accord. On n'a pas vraiment toujours l'occasion d'interpeller profondément, correctement les exploitants et l'ASN, mais quand même, être au contact de ces gens-là est très intéressant. Parce qu'on peut quand même poser des questions, ils nous fournissent certaines réponses, et des fois, on peut leur rentrer dedans quand c'est nécessaire.
D'accord. Alors, tu as parlé de PPI. Alors, bon, forcément, qu'est-ce que c'est le PPI ?
Alors, le PPI, c'est le plan particulier d'intervention. C'est une zone de 20 km autour de la centrale de Tricastin. C'est valable pour toutes les centrales de France, d'ailleurs. Et en fait, dans cette zone de 20 km, on considère que c'est les gens qui seront évacués en priorité en cas d'incident ou d'accident.
D'accord. Voilà. Ça représente combien de personnes ?
Alors, le PPI aujourd'hui représente... Alors, je ne peux pas vous le donner exactement. Je dirais plusieurs centaines de milliers de personnes, mais je n'ai pas le chiffre en tête.
C'est autour des centrales, donc autour
c'est
des 20
dans
km.
Un rayon de 20 km autour de la centrale.
Mais est-ce que c'est sérieux ? Parce que 20 km, c'est, s'il y avait un accident...
Alors c'est ça le souci, c'est qu'en fait, ces gens sont destinés à être évacués en priorité à la demande du préfet en cas d'incident grave ou d'accident. Oui. Sauf qu'on sait qu'un nuage radioactif aujourd'hui voyage à des centaines de kilomètres. On l'a vu à Fukushima, on l'a vu à Tchernobyl. Donc c'est assez dérisoire. Et de toute façon, il faut bien savoir qu'en cas d'évacuation massive, ça sera un carnage. Parce que absolument rien n'est prévu.
Oui, d'accord. Par exemple, nous, on n'est pas à 20 km, on est à plus que ça, mais on est complètement directement concerné.
Vous êtes concerné, et j'espère que vous avez chez vous des boîtes de pastilles d'iode qui sont destinées à protéger votre thyroïde si un jour vous avez un nuage radioactif au-dessus de vous. Ça permet de saturer la thyroïde et d'éviter que l'iode radioactif vous bousille votre thyroïde.
D'accord.
Vous en avez ? Bon, bah écoutez, à l'occasion...
Donc pour nos auditeurs, est-ce que ça se trouve facilement, ça ?
Non, alors ça se trouve pas facilement parce que c'est délivré normalement... Alors, les gens du PPI ont droit chacun à leur boîte. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ce PPI, eux ont droit à leur boîte. Par contre, dès que vous êtes en dehors du PPI, ou si vous êtes un touriste qui venait dans le PPI, vous n'avez pas droit à votre boîte. Et donc ça pose... Alors, il y a des boîtes qui sont disposées dans les lieux publics, les théâtres, les salles de concert, les cinémas ont chacune des boîtes de pastilles d'iode, mais ça ne se délivre que sur autorisation de la préfecture.
Ah d'accord, le médecin ne peut pas nous...
Non, il n'y a pas de prescription.
D'accord. Bon.
D'accord. Donc,
un petit détail, c'est juste, c'est des comprimés dosés à 65 mg, un comprimé suffit, c'est pas la peine de prendre la boîte. Hein.
Ah oui, d'accord. Alors là tu es venu parce qu'entre autres au Tricastin qui a été construit en 1980,
Oui, c'est ça. Années 80.
Voilà. En fait, ils sont en train de prolonger, non ? Parce que c'était construit pour combien d'années ? Pour 30 ans au départ ?
Alors, effectivement, le Tricastin, les quatre réacteurs de Tricastin ont dépassé les 40 ans de vie, puisque le quatrième, la visite décennale a eu lieu l'année dernière. Donc, la visite décennale est en train d'être faite en ce moment, mais il a eu 40 ans l'année dernière. Donc, ces réacteurs ont dépassé largement leur date de péremption. Ils étaient bâtis pour 30 ans, on les a prolongés jusqu'à 40. Et ils devaient normalement s'arrêter et le relais devait être pris par les nouveaux réacteurs, les fameux EPR. Et malheureusement, les EPR ne fonctionnent pas, puisque les quelques EPR qui existent aujourd'hui dans le monde, ils sont moins d'une demi-douzaine, il n'y en a aucun qui fonctionne correctement. Donc les EPR ne fonctionnant pas, le gouvernement a été obligé d'envisager de prolonger les vieilles casseroles. Et c'est ce qui se passe à Tricastin, qui est une des plus vieilles centrales de France. Avec Fessenheim et Buget, il y avait trois centrales très vieilles. Ils ont fermé Fessenheim. Buget va pas bien et Tricastin va pas bien non plus. Donc cette prolongation des quatre réacteurs de Tricastin est très inquiétante. Et je pense qu'effectivement, nous vivons dans une zone, vous vivez et nous vivons dans une zone un peu à risque.
Oui, parce que tu expliquais que déjà, la cuve du premier réacteur, hein, c'est ça, pose un gros problème.
Alors, Stop Tricastin, effectivement, depuis que nous sommes créés en 2018, on a beaucoup insisté sur les problèmes liés à la cuve du réacteur 1 de Tricastin, parce qu'en fait, le réacteur 1 de Tricastin, c'est le premier réacteur d'une série de 32 réacteur de 900 MW qui a passé la visite décennale des 40 ans. Donc en fait, c'était une espèce de tête de pont. Et nous, connaissant, en ayant les informations à la CLIGET et en discutant avec des experts comme Roland Desbordes de la CRIRAD ou Bernard Laponche de Global Chance, on savait que ce réacteur était très abîmé. Et effectivement, ce réacteur, il a un problème majeur, c'est que sa cuve est fissurée. Il y a une vingtaine de fissures dans l'acier de la cuve qui est censé contenir la réaction nucléaire. Et le problème, c'est que ces fissures, elles existent depuis le début. À chaque visite décennale qui ont lieu tous les 10 ans, la cuve est inspectée. Et quand on demande à EDF comment évoluent ces fissures sous l'effet de la radioactivité, parce qu'on sait que la radioactivité peut entraîner des modifications du métal, ils nous disent « on l'a contrôlé, tout va bien ». Mais en réalité, ce qu'on a appris, c'est que les outils dont ils disposaient pour apprécier la profondeur de la des fissures ne fonctionnaient pas. Il y avait trop de chaleur et donc les images n'étaient pas bonnes. Donc aujourd'hui, on a une cuve fissurée avec 20 fissures dont on ne connaît pas l'état vraiment. Et l'ASN a donné son autorisation pour qu'elle soit prolongée jusqu'à 50 ou 60 ans, inquiétant.
Ce que tu nous expliques, c'est que tout va bien. Ils ont été capables de reprendre les photos des fissures, quoi.
Alors là, ils ont une nouvelle machine qui permettrait éventuellement d'explorer. Mais de toute façon, ils ne donnent pas les résultats. C'est top secret. C'est un gros problème, le manque de transparence des EDF. Alors, ce réacteur 1, donc, il a une cuve fissurée. Et en plus, il y a de nombreux incidents. Greenpeace a demandé à Bernard Laponche de faire une étude sur les incidents de la centrale de Tricastin entre 2010 et 2020, à la veille de la visite décennale des 40 ans du réacteur 1. Eh bien, il apparaît qu'en 10 ans, sur la base d'informations communiquées par EDF à l'autorité de sûreté nucléaire, puisque EDF est obligé, chaque fois qu'il y a un incident, même mineur, de donner l'info à l'ASN qui contrôle. Eh bien, sur la base de ces informations de l'ASN, Bernard Laponche a noté 147 incidents se sont déroulés sur les quatre réacteurs de Tricastin. Et celui qui a eu le plus d'incidents, c'est le réacteur 1 avec 43 à lui tout seul.
Alors 147 sur 10 ans, c'est ça?
Oui, 147 sur 10 ans.
Donc un par mois.
Si,
même plus qu'un par mois, tu vois. 12 mois, 10 ans, 120 mois.
Oui, c'est une moyenne. Mais en tout cas, il y a des incidents réguliers. Il y a cette cuve qui est fissurée. Or, la vie d'un réacteur est liée à la vie de la cuve, puisqu'on ne peut pas la remplacer. On peut remplacer beaucoup de choses dans un réacteur nucléaire, tout sauf la cuve et l'enceinte. Donc, ça, c'est vraiment très inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au moment où ce vieux réacteur devrait être très surveillé, très contrôlé, les gens qui s'occupent justement de la sûreté nucléaire, les sous-traitants, nous disent qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de faire de bons contrôles parce que tout va trop vite. Il y a tellement de chantiers en cours avec ce grand carénage et d'autres travaux qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ils sont complètement stressés. Ils ne font pas les travaux correctement. Et en plus, la sous-traitance, il y a 4 niveaux de sous-traitance. C'est-à-dire qu'EDF sous-traite un sous-traitant, qui sous-traite un deuxième, un troisième, un quatrième. Et on a, nous racontait Gilles Reynaud...
Ce qui n'était pas du tout le plan de départ. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des gens d'EDF qui faisaient, qui faisaient la maintenance. Or maintenant, la maintenance est faite par ces sous-traitants extérieurs.
Oui, parce qu'au
début, un vrai problème,
au début, EDF était un service public, au service des gens. Mmh. C'est devenu une multinationale de l'énergie, et donc il ne gère que des coûts. Et c'est il n'y a que le moins 10 ans qui compte. Et un copain, Gilles Reynaud de Ma Zone Contrôlée, nous disait qu'effectivement, en bas de chez les troisième ou quatrième sous-traitants, on a des fois des travailleurs détachés qui ne savent même pas lire les notices. Donc, c'est ça qui est inquiétant. On a un vieux matériel qui est à bout de souffle et qui est prolongé alors que la sûreté n'est pas...
Parce que, en gros, la formation des gens qui sont là en train de faire la maintenance, c'est un truc du genre une semaine de formation, alors qu'autrefois, quand c'était à l'intérieur de EDF, c'était des gens qui avaient une formation de 6 mois, non ?
Non, c'est 3 semaines, alors que chez EDF, c'est 3 à 6 mois, oui, c'est vrai. Et ce qui est... Et ça, effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ouais. Il y a un niveau de compétence. Et puis surtout, il y a aussi le départ à la retraite des anciens. Et il n'y a pas le transfert de connaissances et de compétences. Et demain, quand il faudra démanteler les réacteurs, ils seront très mal partis. Parce qu'effectivement, ils auront perdu la connaissance de
l'outil. Démanteler les réacteurs, mais ce n'est pas du tout dans la vue de...
pour nous, c'est l'avenir de Tricastin. Le démantèlement, c'est l'avenir de Tricastin. On souhaiterait que ces réacteurs soient progressivement arrêtés. On ne dit pas de fermer la centrale demain. Ouais. Ce qu'on voudrait, c'est fermer le réacteur 1 tout de suite, parce que lui, il est vraiment très délabré. Et puis progressivement, fermer le 2, puis le 3 et le 4. Et effectivement... commencer à entreprendre le démantèlement de la centrale. Parce qu'il faudra des gens pour s'occuper de tout ça. Il faudra des compétences. Et ces compétences, heureusement qu'on les a encore.
Quand tu dis que tu es très inquiet avec tout ce que tu viens de nous décrire, concrètement, pour les populations qui sont autour, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que s'il y a un incident grave à Tricastin ou un accident, on aura un nuage radioactif au-dessus de nous et nous serons tous évacués. C'est-à-dire qu'on perd tout. On perd nos maisons, on perd nos commerces.
Évacués sans espoir de retour.
Sans retour à la normale. Le retour à la normale n'existe pas. On l'a vu à Fukushima, on l'a vu à Tchernobyl. S'il y a un accident, on est tous évacués en catastrophe et il n'y aura pas de retour à la normale. On ne reviendra jamais. La vallée du Rhône sera coupée. L'axe Paris-Lyon-Marseille sera coupé et ce sera donc une catastrophe nucléaire. Un accident nucléaire de grande ampleur a été évalué par l'IRSN il y a quelques années et c'est de l'ordre de 450 milliards d'euros. C'est colossal. Et EDF n'est pas assuré pour ça. Bon, je veux pas, c'est trop... Ouais.
Et pour les petits incidents, tu as évoqué des petits incidents réguliers, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les gens ?
Ce qui se passe, c'est qu'une centrale nucléaire, c'est pas une fabrique de nougat. Donc à partir du moment où on a un incident... à quel moment l'incident devient accident, c'est toute la question. Et c'est ce que disent les gens qui s'occupent de la sûreté aujourd'hui. Malheureusement, de temps en temps, ils n'ont pas tous les moyens pour faire le travail correctement. Donc, ça peut déraper à n'importe quand. Ça peut déraper à n'importe quel moment. Et je vais juste vous donner un détail qui est important. On s'imagine que l'autorité de sûreté nucléaire, qu'on appelle aussi le gendarme du nucléaire, contrôle attentivement tout ce qui se passe dans la centrale. Et c'est vrai que l'autorité de sûreté nucléaire fait des contrôles réguliers. EDF doit répondre à tous les incidents. Sauf que EDF, des fois, est tellement pris dans son besoin de fournir du courant qu'ils arrivent à cacher à l'autorité de sûreté nucléaire des informations essentielles. Et je vais prendre un exemple. En 2018, il y a eu une inondation sur le réacteur 3 de Tricastin. Une nuit, dans le bâtiment à côté du réacteur, il y a eu une fuite d'eau. Un rince œil, je crois, a été resté ouvert. L'eau a circulé dans les étages, est passée par une zone nucléaire et est arrivée en bas. Il y avait 10 cm d'eau en bas au rez-de-chaussée. C'était la nuit. les gens de garde ont vu ça et ils ont essayé d'avertir la sûreté, la sécurité, qui leur a dit écoutez, oui, mais il n'y a personne. Et le matériel chef pour décontaminer, écoutez, prenez des seaux, des éponges, mais on n'a pas ça. Ils sont allés chercher chez un prestataire extérieur des seaux, des éponges et des raclettes pour enlever l'eau, sans savoir si elle était radioactive. Donc ça a été un truc de dingue. Mediapart a fait un très bel article à l'époque. Et puis, c'est passé un peu sous les radars. À la Cligette suivante, avec Roland Desbordes, on a demandé à EDF, au président, au directeur, « Non, monsieur Ossegui, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oui, on a eu un petit problème de fuite sur un joint, mais tout est réglé, vous savez. » Il nous a menti. Il nous a menti ce jour-là. Il a menti à tous les gens de la Cligette. Sauf que, quelques mois plus tard, le responsable de la sécurité cette nuit-là, qui s'appelle Hugo, a porté plainte contre EDF en disant « Moi, ce soir-là, j'étais de permanence, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai voulu, quand l'ASN est venu après faire un contrôle, expliquer la situation, on m'a interdit de dialoguer avec l'ASN. » Donc, il a été empêché de donner l'information à l'ASN de ce qui s'était réellement passé. Et ça, c'est très grave. Ils en sont là aujourd'hui. Et ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir confiance à EDF.
Pour abonder sur ce que tu disais, il y a quand même un ingénieur d'EDF qui dénonce la non-information.
C'est ça. C'est Hugo.
Ah, c'est
Hugo. Il fait un procès à EDF pour mise en danger de la vie d'autrui, et le procès aura lieu à Marseille dans les mois qui viennent.
Alors, il nous reste plus que 3 minutes, en gros, et il y avait une question aussi sur l'ASN et IRSN, mais peut-être tu as d'autres priorités.
Oui, moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à Tricastin, non seulement on a le problème des réacteurs vieillissants qui sont prolongés dans de mauvaises conditions, mais aussi, il y a des élus dans la région qui voudraient absolument qu'on implante des EPR2. Et les EPR2, déjà, ils ne fonctionnent pas. Il faut savoir que les EPR, ça marche mal dans le monde parce que c'est trop puissant, mais je ne rentre pas dans les détails. Sauf que implanter des nouveaux réacteurs dans une zone sismique active et inondable, c'est complètement délirant. Et alors, tout le monde sait que Tricastin est une zone sismique. Depuis des années, l'autorité de sûreté nucléaire, après Fukushima, avait demandé à EDF de réparer la digue du canal qui amène l'eau pour refroidir les réacteurs, la digue du canal de Donzé-Mondragon, parce que en amont de la centrale, quand ils ont construit les réacteurs, le canal avait été construit bien avant, ils ont démoli 400 mètres de la digue pour faire passer les tuyaux pour apporter l'eau au réacteur, et ils ont reconstruit. Mais ces 400 mètres sont donc ont été fragilisés. Et l'ASN avait dit à EDF, il faut réparer ces 400 mètres. Pendant des années, EDF a fait la sourde oreille. En 2017, l'autorité du nucléaire a débarqué à la Cligette en exigeant du directeur de fermer les 4 réacteurs pour réparer la digue. Wow. Sachant que EDF perd 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Fermer les 4 réacteurs pendant 3 mois, c'est une perte considérable. Donc, l'ASN a débarqué, ils ont fermé les réacteurs, ils ont réparé la digue. En 2019, heureusement qu'ils l'ont fait, on a eu de la chance, parce qu'en 2019, on a eu un tremblement de terre qui a secoué la région. Si l'ASN n'avait pas exigé de réparer la digue, est-ce qu'aujourd'hui on serait là à discuter? Peut-être pas, parce qu'en fait, le canal de Donzé-Mondragon a une digue en terre. Cette digue en terre, donc, elle est fragile. Le niveau de l'eau dans le haut du canal, est à 6 mètres au-dessus de la base des réacteurs. Donc, si ces 400 mètres de digue cèdent sous l'effet d'un séisme, ces 2000 mètres cubes d'eau seconde qui déboulent sur les 4 réacteurs, c'est perte du refroidissement, c'est la fonte des cœurs et c'est Fukushima. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit des colos, puisque même M. Pierre-Franck Chevet, l'ancien président de l'ASN, avait avoué dans un entretien à un journaliste qui s'appelle Thierry Gadeau en 2018, qu'effectivement, on lui avait posé la question « Est-ce qu'un Fukushima en France est possible ?» Il avait dit « Écoutez, à Tricastin, en cas de séisme fort, si la digue s'écroule, effectivement, on pourrait se retrouver en situation de Fukushima. » Donc, aujourd'hui, on a une digue qui a été réparée, qui est fragilisée, qui a été secouée par un tremblement de terre. On ne sait pas très bien dans quel état elle est, puisque les études qu'a entrepris l'IRSN et le CNRS ne seront définitives qu'en 2026. Donc, on ne sait pas dans quel état est la digue. On ne sait pas s'il ne faudra pas réévaluer le risque sismique. Et on voudrait nous implanter des EPR, ce qui est complètement dingue. Et d'ailleurs, si c'est Buget qui a été choisi, et Patrick Castin, c'est parce que le risque sismique, justement, connu, n'a pas été correctement évalué. Alors, on plaint nos copains de Bugey, on est solidaires avec eux, et on va d'ailleurs aller manifester bientôt avec eux à Lyon, mais peut-être que demain ou après-demain, les élus locaux vont revouloir des EPR de Patrick Castin, et là-dessus, il faut se battre fort, fort, fort. C'est absolument impensable, impensable.
Alors, bon, actualité oblige, on va aussi faire un petit point sur l'actualité. Entre autres, les fournisseurs d'électricité en sont quand même à 37 milliards de surprofits, hein, quand même. Hein, c'est une bonne transition avec le budget de M. Bruno Le Maire, qui, lui, passe avec des 49.3 et qui nous dit « Mais circuler, il n'y a rien à voir, personne n'a rien dit qu'ils n'étaient pas contre ». Il passe avec des 49.3, il explique que c'est démocratique.
Oui, oui, mais ça, là, on commence à avoir l'habitude, malheureusement. Ouais. Hein.
Et tout ça avec, évidemment, quand même, une aide aux entreprises de 200 milliards, avec des niches fiscales à 100 milliards, avec une évasion fiscale à 150 milliards. Mais on va prendre les sous chez les chômeurs, parce que, quand même, hein, il faut prendre là où il y en a.
C'est ça.
Hein? Oui, mais pardon, tout le monde sait que M. Macron, c'est Robin des Bois à l'envers. Il prend aux pauvres pour donner aux riches.
Voilà, ouais. Donc voilà, il veut. Et puis, il y avait Manon Aubry qui venait expliquer son programme par rapport aux européennes. Là, et il y avait un intervieweur qui posait la question, mais alors comment on fait, hein, si on ne prend pas les sous aux chômeurs, comment on fait? Alors elle dit, voilà, il y a quand même plein de sous à prendre, les 200 milliards. Oui, non, mais comment on fait? Comment on fait, hein? Comment on fait? Et donc, elle répète une autre fois, elle réexplique, et le mec continue. Et alors, comment on fait? Alors, vous n'êtes pas d'accord? Alors, vous êtes pour le déficit, vous,
hein,
vous
c'est êtes... incroyable.
On en est là. C'est-à-dire que les infos sont complètement truquées.
Oui, on a vraiment un gros, gros problème, avec les médias. Et c'est un énorme problème démocratique, ça, c'est sûr.
Voilà. 87% des dividendes sont détenus par 1% des Français. Bon, et donc, alors, les 500 premières fortunes de France, excusez du peu quand même, faisaient l'argent qu'ils avaient, ça représentait 5% du PIB il y a 25 ans. Ça représentait 20% du PIB quand Macron est arrivé. Ça représente 45% du PIB maintenant. Tu te rends compte? C'est fou, quoi. Les mecs, ils sont passés de 5% à 45% de...
Il y a une immoralité terrible, ouais, je trouve, de faire que ces gens ne participent pas à l'effort collectif, quoi. Ça, c'est pas possible.
Oui, mais tu dis tout de travers, parce qu'en fait, c'est nous qui participons pas.
C'est la théorie du ruissellement.
On voudrait avoir des urgences. Non, mais franchement, quand même.
Ou une école.
Voilà, ou des écoles. on voudrait même pas payer la taxe lapin qu'ils sont en train de nous mettre, là. Tu sais, la taxe lapin, là, tu vois ce que c'est, là.
Ah, oh bah, la taxe lapin, c'est un truc complètement bidon, hein. Là, la taxe lapin, ils nous prennent pour des pigeons, hein. C'est hallucinant, quoi.
Et puis, il faut qu'on participe, il faut qu'on fasse un effort. Les chômeurs, par exemple, il faut qu'ils fassent des efforts, hein. Faut faire des efforts. Voilà. Voilà, chercher l'erreur. Alors. Tu avais un sujet sur l'éducation nationale parce que, entre autres, voilà, il y a des sous du privé qui partent.
Oui, oui. Il y a eu un rapport qui a été présenté récemment, là, par deux députés, Christophe Weisberg du groupe Renaissance et Paul Vanier, qui est LFI. Donc, l'objectif du rapport, c'était de regarder quel est le budget, en fait, qui est alloué aux écoles privées. Mais tu sais, Michel, je crois que je vais pas avoir le temps de développer.
Vas-y.
Quel est le budget qui est alloué par l'État aux écoles privées? Et puis, comment c'est contrôlé, tout ça?
On est d'accord, on va être obligé d'écourter.
Et oui.
Tu voulais dire un petit mot sur les élections?
Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est le 9 juin, les élections. Vous avez jusqu'au 1er mars ou au 3 mars. Alors, il y en a une date limite qui est en ligne et l'autre en mairie. Je ne sais plus comment ça marche.
Tu n'auras pas le temps de traiter le sujet sur la
TVA prochaine fois.
Sociale.
C'était passionnant. Merci, ouais. Alain. C'était chouette.
Dernière chose, on a un tout petit mot sur Vaisseau. Demain, à 18h45, il y a la réunion du conseil communautaire à Vaisseau, à 18h45. Hein, demain, mardi 9 avril. Et le sujet, entre autres, il va y avoir quelque chose, un temps, sur la vallée de la Bézorgue. Et là, il y a un vrai sujet parce qu'ils sont en train de faire un petit peu n'importe quoi. Pareil, il y a des gros sous, des gens qui ont beaucoup de pognon, qui investissent et qui veulent... Hein, non, c'est, ah, là, pardon. C'est pas... Là, la vallée de la Bézorgue, c'est du canyoning, tu sais. Il y a un mec qui fait plein de sous, là, aux dépens de tout le monde.
D'accord. Voilà.
Bon, allez, ciao, bon courage.
À bientôt.
Ciao, au revoir. Je suis prêt à revenir pour Orano, parce qu'on a parlé d'EDF, mais il y a Orano aussi à Tricastin.